Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce mardi soir 19 janvier 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'Iran avertit contre la patrouille de bombardiers B-52 des États-Unis dans la région. La Syrie a catégoriquement démenti les nouvelles mensongères diffusées par certains médias sur ses rencontres avec le régime des Israéliens. L'armée algérienne a procédé à d'importantes manœuvres aéroterrestres à Tindouf, province frontalière du Sahara occidental, et du Maroc. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. L'Iran n'hésitera pas à écraser les ennemis agresseurs, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif au sujet du survol des bombardiers B-52 des États-Unis du Golfe Persique. S'adressant à Donald Trump, Mohammad Javad Zarif a écrit sur sa page de Twitter « Si patrouiller de bombardier B-52 veut intimider ou avertir l'Iran, vous auriez dû dépenser ce milliard de dollars pour la santé de vos contribuables. » Bien que nous n'ayons pas déclenché de guerre au cours des 200 dernières années, nous n'avons aucun doute quant à l'écrasement des agresseurs, a ajouté le ministre iranien des Affaires étrangères. Demandez à vos amis proches qui ont soutenu Saddam Hussein, a dit Zarif en s'adressant au président finissant US Donald Trump. Et dans le même temps, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, commandant de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré dans une interview télévisée que les bombardiers B-52 étaient des cibles plus faciles que les drones Global Hawk pour les systèmes anti-aériens de l'Iran. Le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Ali Akbar Salehi, a annoncé que les installations nucléaires iraniennes produisaient désormais 20 grammes d'uranium enrichi à 20% par heure. Il a déclaré que les installations nucléaires iraniennes ont pu augmenter l'enrichissement à 20% en seulement 24 heures après un décret date du Parlement. Il a ajouté qu'il n'y avait eu aucun problème technique. Le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a souligné que l'Iran était prêt à réduire son programme d'enrichissement, mais cela dépendrait de l'action américaine. Il a affirmé que les États-Unis doivent revenir à l'accord nucléaire au plan global d'action conjoint et supprimer toutes les sanctions contre l'Iran, en particulier celles qui empêchent les ventes de pétrole et les transactions bancaires du pays. La Syrie a catégoriquement démenti les nouvelles mensongères véhiculées par certains médias sur la tenue n'importe où de rencontres syro-israéliennes. Dans une déclaration qu'elle a donnée à Sana, une source officielle du ministère syrien des Affaires étrangères a fait savoir que la République arabe syrienne dément catégoriquement les nouvelles mensongères véhiculées par certains médias rémunérés sur la tenue n'importe où de rencontres des syro-israéliennes, affirmant que la publication de telles nouvelles constitue une tentative déçue de la part de ces journaux afin de mettre en doute les positions constantes et de principe de la Syrie vis-à-vis de l'occupation israélienne. Et la source d'ajouter, la Syrie assure qu'elle était et restera pour toujours claire dans sa politique et prend cette décision au profit de l'intérêt national et des justes causes de la nation arabe, notamment la cause palestinienne et la libération du Golan arabe et syrien et des territoires arabes occupés conformément aux résolutions internationales et y étant relative. Et cette source a indiqué également que la Syrie affirme que les forces qui sont derrière ces mensonges sont les mêmes qui œuvrent pour la normalisation avec cette entité qui tente d'entraîner la région entière aux alliances sionistes occidentales, faisant noter qu'après leur échec, ils recourent à de telles voies naïves en publiant des nouvelles mensongères. Sahara occidental, importante manœuvre algérienne à la frontière marocaine. L'armée algérienne a procédé à d'importantes manœuvres aéroterrestres à Tindouf, située dans le sud du pays, de cette province frontalière du Sahara occidental et du Maroc, selon des images de la télévision publique algérienne diffusées lundi soir. Cet exercice baptisé Al-Hazm 2021, résolution de 2021, s'est déroulé dimanche et lundi sous la supervision du chef d'état-major de l'armée nationale populaire ANP, le général Saïd Chengrihar. Pendant près d'un quart d'heure, la télévision algérienne a montré un exercice de tactique à tir réel de missiles, dont la dernière version du missile antichar russe Kornet. Ces exercices s'inscrivent dans le cadre de l'évaluation de la première phase du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021, selon un communiqué du ministère de la Défense. Ils ont pour objectif de développer l'expérience au combat, a déclaré le général Chengriha dans un discours. Évoquant l'instabilité régionale, le chef d'état-major a souligné que l'Algérie mérite que son armée soit constamment à la hauteur des enjeux auxquels elle fait face aujourd'hui et qu'elle demeure éternellement libre, souveraine et tenace face aux ennemis d'hier et d'aujourd'hui. Soudan, manifestation contre la normalisation avec Israël. Des dizaines de manifestants soudanais ont brûlé le drapeau israélien à Khartoum pour protester contre la décision des autorités de normaliser les relations avec l'entité sioniste. Ils se sont rassemblés devant le siège du gouvernement, scandant des slogans anti-Israël et brandissant des pancartes avec les mentions « La normalisation est une trahison » ou « La normalisation est un crime ». Une autre bannière dénonce l'accord de normalisation comme un chantage américain. Pour rappel, le 6 janvier, à l'occasion de la visite du secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, le Soudan a signé un accord de normalisation avec Israël et obtenu simultanément une aide financière des États-Unis quelques semaines après le retrait de Khartoum de la liste américaine des États accusés de financer le terrorisme. Et l'accord de normalisation doit être encore ratifié par le pouvoir législatif avant d'entrer en application. Or, le Soudan ne dispose toujours pas d'un parlement de transition. Et pour terminer, chez le journal Information, au moins 4 militaires nigériens ont été tués et 8 autres ont été gravement blessés dans l'explosion de leur véhicule sur un engin placé par le groupe terroriste Boko Haram dans la région de Zifar, selon un communiqué du ministre nigérien de la Défense cité par la télévision publique nigérienne Télé Sahel. Les militaires sont tombés sur cet engin d'explosifs improvisé aux environs de 15 heures lundi au cours d'une poursuite engagée par les forces armées nigériennes après une attaque du camp militaire dans la région de Zifa par la secte terroriste vigoureusement repoussée par l'armée, précise toujours le communiqué. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. L'Iran ne recherche ni tension ni guerre, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que les mesures prises par l'administration du président américain sortant Donald Trump pour fomenter les tensions dans la région n'influençaient pas la détermination du peuple iranien, réaffirmant que la République islamique d'Iran ne recherche ni tension ni guerre. Mohammad Javad Zarif a fait ses remarques en s'adressant aux journalistes en marge d'une réunion avec la Commission de la Sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien. Interrogé sur les mesures de provocation prises par l'administration finissante Trump pour attiser davantage de tensions et d'éventuelles confrontations militaires dans la région, Mohammad Javad Zarif a déclaré « L'Iran ne recherche ni tension ni guerre et les mesures prises par l'administration en disgrâce de Trump sortant n'auront aucun effet sur la détermination du peuple iranien. Si un individu a l'intention de commettre un acte d'agression contre l'Iran, il doit prendre en compte l'histoire de l'agression précédente. Cependant, je pense que dans les un ou deux prochains jours à de gauche de l'administration Trump, notre dissuasion agira bien, a-t-il ajouté. Ces derniers mois, Washington a pris des mesures de provocation qui ont exacerbé la situation déjà tendue dans la région. Washington a fait voler des bombardiers B-52 au-dessus du golfe Persique, a dépêché un sous-marin à propulsion nucléaire dans la région et prolongé le séjour du porte-avions en guise d'avertissement, toujours selon bien sûr une version présentée par Washington d'avertissement à la République islamique d'Iran. Dans un tweet, le ministre iranien des Affaires étrangères a réagi au récent survol des bombardiers stratégiques américains B-52, notant que la nation iranienne ne sera jamais intimidée par de tels agissements et actes de provocation. Il a ajouté que les Iraniens ne sont pas une nation belligérante et n'ont pas commencé une guerre depuis plus de 200 ans, soulignant « Nous n'hésitons pas à écraser les agresseurs ». Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission des débats. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a accusé l'Iran d'avoir des liens avec Al-Qaïda, le groupe terroriste. Al-Qaïda de Mike Pompeo est allé de plus loin dans ses allégations sans fondement en prétendant que l'Iran est devenu la base. Ou bien la nouvelle base du réseau terroriste à Al-Qaïda. La réaction du côté de Téhéran était immédiate. Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que tous les auteurs impliqués dans les attentats du 11 de septembre venaient des pays préférés de Mike Pompeo. Le ministre iranien des Affaires étrangères a également souligné dans sa réaction sur sa page Twitter que Mike Pompeo, qui était quelqu'un qui était réputé pour ses mensonges, pour ses tricheries, met fin à sa carrière dangereuse et avance en fait de telles allégations sans fondement contre l'Iran. Ces allégations du côté américain, dans l'état actuel des choses, à une semaine, si vous voulez, de la fin de cette administration de Trump intervient à un moment où tout le monde le sait, que les groupes terroristes dans la région sensible et névralgique du Moyen-Orient sont créés par les États-Unis. Les autorités américaines elles-mêmes l'avaient déjà affirmé, même Donald Trump, qui était un président catastrophique pour les États-Unis et pour le monde entier, avait en fait, lorsqu'il était en campagne électorale, avait souligné que le groupe terroriste Daesh, c'était une création des États-Unis. Même chose également pour Al-Qaïda, le groupe terroriste Al-Qaïda qui a été créé dans la région avec l'aide des amis et des pays préférés de Donald Trump et de son secrétaire d'État Mike Pompeo. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Toulouse un analyste français spécialiste des questions internationales qui est en ligne avec moi pour cette émission. C'est M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Navrostine, bonjour à tous vos auditeurs et à votre remarquable invité aussi, Mme Issani.
Exactement, le trop d'invité de l'émission d'aujourd'hui que vous qualifiez à juste titre de remarquable, M. Dortiguier, c'est Mme Aïssa Remidani, analyste franco-syrienne, qui est avec moi pour cette émission par Skype depuis Paris. Madame Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci pour l'invitation. Merci. Bonjour aussi à Monsieur Dortiguier et à tous les téléspectateurs de Presse TV.
Madame Midani, je viens de lancer le sujet. Comment t'expliquez-vous ces accusations sans fondement du secrétaire d'État américain Mike Pompeo contre l'Iran, s'il vous plaît?
Bah, écoutez, je crois que de toute façon, comme c'est bien, vous l'avez bien indiqué dans votre introduction, les États-Unis sont habitués du fait d'envoyer des accusations d'une part sans aucun fondement, d'autre part de faire eux-mêmes les choses et puis d'en accuser les autres. Il est clair que ce sont eux qui ont créé Al-Qaïda. C'est de toute façon, même Hillary Clinton l'a affirmé à plusieurs reprises, aussi bien dans sa campagne électorale que dans son livre « Hard Choices », où elle disait quand même que ces terroristes, ce sont nous qui les avons créés pour combattre l'Union soviétique en Afghanistan et aussi pour exporter notre démocratie. De la même manière, Trump, dans sa campagne électorale, a à nouveau affirmé aussi que ce sont eux qui les ont créés. Comme en plus, nous savons que l'Arabie saoudite a donné beaucoup d'argent pour la création d'Al-Qaïda, pour le recrutement justement d'un tas de personnes aidées. Ils ont aussi organisé les camps d'entraînement, etc., pour soi-disant libérer l'Afghanistan du communisme. Donc, en fait, c'est clair et net que ce sont eux qui les ont créés, d'autant plus aussi que les événements du 11 septembre, il s'est avéré que des dires des Américains eux-mêmes et de l'administration américaine, que c'était des Saoudiens et que ce sont eux qui l'ont organisé. Donc, en fait, la réponse de l'Iran en disant que ce sont vos alliés préférés dans la région qui ont abrité Al-Qaïda et qui les ont recrutés, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait juste, ça d'une part. D'autre part, il est certain, et toutes les pratiques américaines, je dirais, états-uniennes dans la région, ont montré aussi, moi je peux parler de la Syrie, Daesh, Al-Nusra qui a été aussi recruté et entraîné par les forces de l'OTAN, donc les États-Unis, et aussi les forces du Mossad, et tous les services de renseignement des pays de l'OTAN. Eux aussi, ils commettaient des crimes, des massacres et des horreurs, et ils en accusaient systématiquement l'État syrien, le gouvernement syrien, de leurs crimes. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez habituel chez les Américains de commettre les choses et puis d'en accuser les autres. Un dernier point que je voudrais dire, quand il dit qu'il ne serait pas étonné qu'il y ait qu'Al-Qaïda fasse des crimes actuellement, commette des crimes actuellement pour le compte de l'Iran, ça veut dire que c'est une manière de commanditer des crimes à Al-Qaïda parce qu'ils comptent bien les mettre sur le compte de l'Iran. C'est exactement ça. C'est une annonce, en fait, de ce qu'ils vont, exécuter et de ce qu'ils vont réaliser comme crime et comme assassinat, sachant que les États-Unis et Israël sont habitués aussi des assassinats et des grands crimes contre les personnalités. D'ailleurs, le général Qassem Soleimani, le général Al-Mohandes, le grand scientifique Mohsen Fakhrizadeh, et aussi des nombreux chercheurs et scientifiques syriens et iraniens. Donc, en fait, ce sont aussi ce sont des habitués des crimes et des habitués des accusations des autres.
Monsieur d'Ortiguet, Madame Midani vient de le préciser tout à l'heure, Al-Qaïda a été créé pour la première fois en Afghanistan par les Américains, avec l'aide de leur allié le plus proche dans la région, l'Arabie Saoudite, qui est réputée pour sa pensée wahhabite, pour et surtout de l'exportation de sa pensée wahhabite, non seulement dans la région du Moyen-Orient, mais désormais en Afrique et ailleurs dans le monde, une pensée qui s'avère très très dangereuse. C'est une chose évidente, en fait, et connue pour le monde. entier. Ensuite, il y a eu d'autres groupes terroristes qui ont été créés, très particulièrement le groupe terroriste Daesh. Monsieur Dortigay, une chose est évidente. Le terrorisme dans la région du Moyen-Orient est au service de la politique américaine, n'est-ce pas?
Oui, en effet, il est au service de la politique américaine, qui est elle-même l'exécutant, disons, de groupes financiers entre aux États-Unis même et à l'extérieur. J'en veux pour preuve le soutien à cette déclaration de M. Pompeo qu'a fait, une déclaration analogue, disons, qu'a publié le New York Times. Le New York Times, en effet, qui avait soutenu Mme Clinton dans la campagne électorale et qui se présente, disons, comme démocrate, c'est-à-dire opposé au président Trump, eh bien, lui-même, disons, a soutenu, en parlant de Hamas, en parlant de... il a soutenu cette idée que les groupes terroristes, dans lesquels il met le Hamas, mais aussi Al-Qaïda, étaient au service de l'Iran. C'est donc une opinion qui n'est pas une opinion, disons, partisane, propre à au groupe de politique de M. Pompeo, mais qui semble être, disons, générale, partagée par tous ces groupements américains, qui d'ailleurs sont liés intimement, bien sûr, à la politique sioniste, liés intimement à des monarchies qu'ils ont créées et dont ils ont pris la suite de l'Angleterre, dont ils ont pris la suite, je veux dire, dont ils ont prolongé, disons, le protectorat anglais depuis les accords du Quincy en 1945, vous savez, les accords de Roosevelt. Eh bien, disons que là, c'est Al-Qaïda est véritablement leur instrument. C'est celui qu'avait mis au point M. Brzezinski pour la guerre en Afghanistan. Et je dois dire que je tiens à souligner bien ce que vient de dire Mme Issani, que cela présage des attentats. C'est-à-dire qu'on essaie, disons, de qualifier des troubles, voyez-vous, des assassinats, des exécutions, peut-être même voir des interventions militaires, voyez-vous, sous le faux drapeau de lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire c'est un terrorisme qui accuse lui-même, disons, ses adversaires, d'être ses ennemis, d'être des terroristes. C'est une inversion accusatoire, si vous permettez, voyez. Voilà exactement. C'est très grave, car cela n'est pas lié, disons, à la politique de tel ou tel candidat américain, mais cela signifie que nous rentrons dans une période très dangereuse, et pour nous, les Français, disons, nous retiendrons toujours la fameuse formule de M. Laurent Fabius. Vous savez que nos auditeurs connaissent, bien sûr, les francophones surtout, à savoir que Al-Nosra fait du bon boulot. Vous savez, il avait dit ça à Marrakech, je crois. Et donc, ceci est signé. C'est un crime, voyez-vous, ce crime de soutien de ces organisations terroristes, c'est un crime qui n'est pas seulement national. C'est pas le fruit d'un impérialisme seulement, comme on dirait l'impérialisme américain, comme on pourrait dire l'impérialisme soviétique ou autrefois, ou russe. Non, il s'agit là d'une organisation international, je prends au point qu'en parlant d'Al-Qaïda qui recrute dans le monde, mais ils sont également supportés par des armées, par des États qui les arment, qui les nourrissent. Il ne s'agit pas de former des hommes, mais également de donner du matériel, de donner une assistance logistique. Tous ceux-ci sont des mercenaires en réalité, voyez-vous, qui obéissent à deux objectifs. Un, détruire bien sûr les ennemis de ce qu'on pourrait appeler le nouvel ordre mondial, bien sûr. Et en même temps, de faire porter sur le dos de l'islam, c'est très important, de la religion mahométane islamique, de faire reporter, disons, l'accusation de terrorisme. Voyez-vous, c'est comme un joueur de billard, voyez-vous, ils tirent sur une balle, ils tirent sur une boule et ils font jouer une autre boule. Ça, c'est très important. C'est donc nous avons affaire à un plan, là, je dois dire, un plan bien concerté, très dangereux. Et justement, nous ne pouvons que, enfin, très modestement, bien sûr, vous remercier de mettre cette déclaration de M. Pompeo en évidence, car elle est, comme a dit Madame, elle est évidemment l'avertissement aussi de troubles futurs et certainement déjà programmés, enfin, voilà.
Est-ce que vous aussi vous pensez, vous estimez, Madame, Midani, ça s'inscrit dans le cadre d'un
un plan bien calculé pour créer de nouvelles troupes et pour aller en fait vers de nouvelles, si vous voulez, aventures militaires ou autres, d'autant plus que le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, aussi a souligné que, réagissant bien sûr à ces propos de Mike Pompeo, que ce sont des propos bellicistes.
Effectivement, c'est pratiquement un ordre qu'il donne Pompeo aux terroristes qu'ils soutiennent de mener quelques actions. D'ailleurs, je voudrais aussi signaler que systématiquement aussi en ce moment, les agressions israéliennes et contre l'ensemble des populations du front de la résistance, en fait, sont en escalade. L'agression contre les terres palestiniennes, contre les Palestiniens et les prisonniers. Hier, il y a eu aussi des bombardements nouveaux des Israéliens, mais sur les frontières syro-irakiennes, ce qui montre bien aussi qu'il y a une volonté d'une part, et il continue dans le même sens, en fait, que l'assassinat du général Soleimani. Il voudrait effectivement empêcher toute possibilité de coopération et de voie de communication par les terres entre la Syrie et l'Irak. Je voudrais dire quand même, plus il y a rapprochement entre les États syriens et irakiens, plus les bombardements sur les Américains et Israéliens, dont de toute façon ils sont dans le même camp, qui continue justement sur les frontières syriennes, irakiennes, et les agressions contre l'armée syrienne, contre l'armée irakienne et les forces de Hashd al-Shaabi. Et donc tout ceci avec des prétextes divers et variés de protection de la soi-disant sécurité ou sûreté de l'État fantoche d'Israël qui a lui agressé tout le monde dans la région et qui a usurpé les terres palestiniennes et le droit des Palestiniens et le droit de tout le monde en fait dans la région et qui pour lequel aujourd'hui et d'ailleurs on a vu le mois dernier comment Trump mettait les bouchées doubles pour le soutenir au maximum, le faire soutenir au maximum par des accords avec Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Maroc, etc., qui sont des accords, des alliances de guerre, je dirais, où il y a effectivement des accords sur le renseignement, sur le militaire, sur la communication, sur la culture, d'ailleurs. Et ça paraît quelque chose ça paraît comme ça, des faits qui sont comme ça un petit peu dispersés, mais en réalité, ils versent tous dans le même objectif, qui est celui d'agresser en fait l'Iran et d'agresser l'ensemble du front de la résistance, des pays du front de la résistance, et d'imposer le diktat américain et de mettre Israël comme étant le pays qui domine dans la région du Moyen-Orient et d'ailleurs qui aurait main basse sur la richesse pétrolière à la fois aussi de la presqu'île arabe et du Golfe. Donc tout ceci bien sûr ne trompe personne. C'est une bataille qui est très rangée et qui est très aujourd'hui qui est en pleine escalade. Et ils essayent de mettre les bouchées doubles, effectivement, avant le départ de Trump du pouvoir. Ce qui ne veut absolument pas dire que l'administration Biden sera différente, plus juste, plus correcte, hein, mais elle prend plus les dégâts, je dirais, et elle prend plus les apparences. Mais il est clair que l'administration Biden ne reviendra absolument pas sur tout ce qui a été décidé par Trump dans cette région, pour ce qui est par exemple de la capitale de Jérusalem qui est devenue la capitale où les Américains ont mis leur ambassade, de ce qui est soi-disant l'annexion du Golan syrien à Israël, mais en fait, qui a été d'ailleurs rejeté par une décision de l'ONU invitant Israël à préparer la libération du Golan et à le mettre et à respecter les lois de l'occupation, en affirmant aussi que le Golan était et restera syrien. Et il est syrien, de toute façon, sous occupation israélienne.
Monsieur Dortiguet, est-ce que vous estimez qu'on peut établir un rapport cause-effet entre ces allégations de Pompeo et de la nouvelle administration américaine qui va se mettre en place presque une semaine?
Oui, en effet. Il est certain que, il est très probable, mais pour nous, disons subjectivement, c'est certain que l'administration de monsieur Biden, qui reprend la politique de Mme Clinton, qui est dans le même sillage, sera beaucoup plus dangereuse que la politique de M. Trump, quoique celle-ci le soit, mais beaucoup plus dangereuse parce que elle sera, M. Trump avait tout quand même dans sa politique parlé de certains retraits, voyez-vous, des États-Unis, du Proche-Orient, en laissant à ses alliés, à commencer par Israël, bien sûr, le soin grâce à l'argent qu'il recevait, je crois que à peu près des 4 ou 5 milliards par an d'aide américaine, à, assurer sa propre défense, etc. C'est la même chose, la même observation qu'il tenait sur son allié l'Arabie Saoudite, que, ces États-là étaient suffisamment riches, etc., pour pouvoir assumer ce qu'il appelle leur propre défense, bien, militairement. Mais ce n'est pas le cas de monsieur Biden, parce que monsieur Biden ajoute au réalisme, si je puis dire, de monsieur Trump, réalisme qu'on peut qualifier de bien et de mauvais, enfin, ce tempérament réaliste d'homme d'affaires, d'entrepreneur qu'il a. Il y a M. Biden, qui est plutôt un diplomate de nature, ou plutôt un haut fonctionnaire, il y a quelque chose de plus hypocrite, c'est-à-dire c'est toujours cette recherche de la défense des droits, c'est-à-dire que c'est un discours, qui n'est pas ouvertement belliqueux, mais qui lui-même, tiendra compte, justement, de ce fantôme du terrorisme, d'Al-Qaïda, voyez-vous, ce fantôme iranien, si je puis dire, de ce fantôme iranien pour pouvoir continuer la mobilisation. Mais n'oublions pas, pour être clair, que Mme Clinton avait une politique agressive contre l'Iran. Voyez-vous, nous pensons que si elle avait été élue, nous aurions eu déjà un conflit, ou tout au moins des attaques fort sérieuses. Et je pense que les adversaires de M. Trump, je ne dis pas que lui-même soit un homme tout blanc, non, mais les adversaires de M. Trump, sur ce plan de la politique du soutien à Israël, sont beaucoup plus actifs. Parce que quand même, Israël a toujours eu, des deux côtés, a toujours une manette des deux côtés, républicains et démocrates, mais plonge quand même chez les démocrates, dans les démocrates, ils trouvent un appui, il a une influence beaucoup plus grande, et je n'en veux pour preuve justement que cette déclaration sur le caractère terroriste de soutien de Al-Qaïda de l'Iran, qui a été également dans le fameux New York Times, qui quand même tire à plus d'un million d'exemplaires, est connu pour être un foyer proprement démocrate, etc., mais très pro-israélien, très très pro-israélien, voyez-vous. En fait, les États-Unis ne peuvent pas se sortir. Ils sont comme dans une cage. Ils ne peuvent pas se sortir de cette chape impérialiste qui leur a été mise dessus par les politiciens antérieurs. Ils sont dans un destin d'affrontement avec le monde. Et je crois que M. Biden est pire, c'est mon opinion naturellement seulement, mais il sera pire s'il est élu que l'aura été M. Trump.
Monsieur Dortiguet, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission, le débat consacré à ces accusations du secrétaire d'État américain finissant Mike Pompeo contre l'Iran, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne, qui a été là avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite à vous toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. L'Iran met en garde contre toute éventuelle agression dans les plus brefs délais. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bagheri, a déclaré que les ennemis mal intentionnés en mer seront complètement détruits par la puissance de missiles les plus sophistiqués de l'Iran. S'exprimant en marge de la dernière étape de l'exercice Payambare d'Azam, grand prophète 15, qui a débuté le vendredi dans la zone centrale et du désert iranien, le général Bagheri a réaffirmé que si les ennemis de la République islamique avaient des intentions malveillantes envers les intérêts nationaux, les routes commerciales maritimes et terrestres de la République islamique et d'Iran, ils seront détruits par les missiles avancés du pays. Les exercices militaires au cours des 15 derniers jours et jusqu'aux prochains jours qui sont effectués en temps intensif et presque simultanément montrent l'extraordinaire et excellente disponibilité des forces armées dans toutes les dimensions de la terre, de l'air, de la mer et de défense antimissile, a-t-il à ajouter. Exercice militaire du grand prophète, le corps des gardiens de la révolution islamique teste ses nouvelles technologies de guidage et de contrôle des missiles. Le commandant-chef du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI, le général de division Hossein Salami, qualifiant de démonstration de la ferme volonté du peuple iranien, la mise en œuvre de deux opérations conjointes de missiles et de drones dans l'exercice du grand prophète, a indiqué les tests réussis de nouvelles technologies dans les systèmes de guidage et de contrôle des missiles et de drones et dans le commandement et le contrôle était l'une des caractéristiques de ces manœuvres. Le général de division Hossein Salami, s'exprimant en marge de la première phase des exercices du grand prophète 15 qui s'est déroulé ce vendredi 15 janvier dans la région désertique centrale de l'Iran, a ajouté « En utilisant un grand nombre de drones de combat offensifs et équipés de technologies avancées de guidage et de contrôle, et de l'intelligence artificielle pour le ciblage, les tirs de missiles balistiques et la destruction de cibles avec une grande précision dans cette première phase des manœuvres de magnifiques scènes ont été peintes exposant l'autorité défensive et la puissance dissuasive de l'Iran islamique, a-t-il souligné. Aveu israélien, le Hezbollah s'est acquis des centaines de missiles de précision Israël dans l'impasse. Aveu d'échec incontestable, Israël n'a pu empêcher le Hezbollah de s'acquérir les missiles de haute précision considérés comme un danger stratégique pour Israël. Cet aveu est le constat des estimations israéliennes dont les échos ont été relatés par la chaîne de 13 de la télévision israélienne. Celle-ci en conclut que les centaines de raids israéliens effectués en Syrie ces dernières années contre ce que les Israéliens appellent le projet de précision se sont avérés et inutiles. Le bombardement de dépôts ou de convois présumés contenir cet arsenal balistique acheminé selon, bien sûr, une version dénuée tout sens du côté israélien depuis l'Iran, n'ayant finalement pas réalisé l'objectif escompté. Selon le journal libanais Al-Akhbar, les services de renseignement israéliens sont désormais persuadés que la résistance libanaise détient des centaines de ces missiles de précision. Auparavant, constate le chroniqueur des questions israéliennes du journal libanais Al-Akhbar, Yayar Debouk, ces services parlaient de quelques dizaines de missiles et avançaient qu'Israël ne permettra jamais leur acquisition. Les bombardements israéliens n'ont pu empêcher le Hezbollah de développer ses propres capacités à fabriquer et à monter des missiles de précision de moyenne et de longue portée capables de paralyser les systèmes stratégiques israéliens, indiquent les estimations israéliennes d'après lui. Force est de constater que ces nouvelles estimations interviennent au lendemain des manœuvres balistiques effectuées la semaine passée au centre de l'Iran par les gardiens de la révolution islamique et au cours desquels des centaines de missiles donc d'une portée de 1800 km ont été testés et médiatisés alors qu'ils frappaient de plein fouet des cibles bien définies. Et au Yémen, les agresseurs sont dans un enlisement total. Des milliards de dollars des dizaines de milliards de dollars ont été dépensés pour mettre le peuple yéménite à genoux. Mais non seulement les Saoudiens n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs, et bien pire encore, ils ont perdu de vastes zones dans les provinces d'Al-Jaouf et de Marib, et ils sont au bord d'une défaite historique. La libération de la partie orientale de la province de Sanaa a été le prélude aux défaites de l'Arabie saoudite au début de 2020, et ensuite ils ont échoué également à Al-Jaouf et perdu le chef-lieu de cette province ainsi que plusieurs autres provinces importantes. L'ampleur de cette humiliation a été étendue à la province de Marib. La gifle que les Saoudiens ont reçue dans leur base la plus importante au centre du Yémen restera jamais sur leur visage et ne sera pas effacée de leur esprit. Et maintenant, le sommeil leur a été enlevé car les forces yéménites sont arrivées à 15 km de la ville stratégique de Marib. À l'heure actuelle, la situation au Yémen est beaucoup plus sensible que par le passé et tous les yeux sont rivés sur les combattants yéménites pour voir quand ils vont lancer l'opération décisive pour libérer la ville de Marib et enfoncer le dernier clou dans le cercueil des Saoudiens au centre du Yémen. Plusieurs provinces du pays sont entièrement sous le contrôle de l'armée et des combattants d'Ansar Allah et des forces de la coalition d'agression saoudienne n'occupent que 10% de la superficie des provinces de Hajja et de Saada. Le Le ministre russe des Affaires étrangères affirme que de ce que font les États-Unis en Syrie viole la résolution 22 de 54 stipulant l'engagement envers sa souveraineté. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que l'occupation américaine de territoire en Syrie, le pillage de ses richesses et le soutien aux milices séparatistes viole la résolution 22 54 du Conseil de sécurité qui stipule l'engagement envers la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie. Lors de sa conférence de presse à Moscou, Lavrov a déclaré « Nous avons exprimé à plusieurs reprises nos évaluations et nos positions officielles concernant le développement en Syrie et tout le monde avait signé la résolution 2254 du Conseil de sécurité qui stipule la nécessité de respecter la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie, précisant que les États-Unis occupent des territoires à Al-Jazeera, pillent et vendent les ressources naturelles syriennes et soutiennent les milices séparatistes en violation flagrante des dispositions de la résolution 2254. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.